Vous savez, il y a des rencontres que nous faisons qui ne nous font pas grand-chose. Nous rencontrons parfois des personnes, c'est des rencontres de plus. Et parfois, nous rencontrons des personnes et cette rencontre fait quelque chose au plus profond de notre être. Nous rencontrons parfois des personnes qui vont nous faire du bien. Peut-être qu'on était dans un besoin en particulier quelconque et que la personne même ne connaissait pas le besoin que j'avais. Et par sa présence, par ses paroles, par cette rencontre-là, il va y avoir une parole d'encouragement, un mot que j'avais besoin en ce temps-là. Et ça m'a fait du bien. Vous et moi, nous avons eu à faire ces rencontres. Des rencontres qui nous ont interpellés, qui nous ont motivés, qui nous ont encouragés. Il y a dans l'évangile de Jean une parole, une rencontre qui ne va pas laisser la personne indifférente. Vous savez, quand on fait la rencontre avec Jésus, ça bouleverse nos vies. J'en suis le témoin. Plusieurs peuvent témoigner parmi nous ce matin. Ce jour où le Seigneur s'est révélé à nos cœurs. Ce jour où peut-être qu'on ne le cherchait pas. Ce jour où peut-être on ne faisait même pas cas de lui. Mais vous savez, le Seigneur connaît nos cœurs. On ne peut pas se faire la rencontre, une rencontre avec Dieu, si le Seigneur lui-même ne se révèle pas à nous. La rencontre dont nous allons parler, et vous connaissez ce passage, c'est dans l'évangile de Jean, au chapitre 4. Il est question de cette femme samaritaine avec Jésus. Jésus est épuisé, fatigué. Il fait un voyage. Et lassé, fatigué du voyage, il s'arrête près d'un puits à Samarie pour se désaltérer. Nous pouvons lire ceci à partir du verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire ? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, « Tu n'as rien à puiser. » Et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'aie plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu cinq maris et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu as dit vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On va s'arrêter là un instant. On va s'arrêter là. On continuera cette lecture. J'ai intitulé ce message « Jésus, ce don parfait ». Le contexte dans lequel ce passage se situe, vous savez, après la chute du royaume du Nord et de sa capitale Samarie, Israël, à un moment donné, va être divisé en deux, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et après la chute du royaume du Nord, de nombreux Israélites vont être déportés en Assyrie. Et le roi d'Assyrie va faire venir un peuple en Samarie pour occuper le pays et maintenir la paix. Et l'union de ces étrangers-là qui sont venus et le peuple restant en Israël va donner naissance à ce peuple métissé qu'on appelle les Samaritains. C'est un peuple métissé. Il y a donc ce peuple métissé, issu de ceux qui sont venus de l'extérieur et de ceux qui sont restés. Et ce peuple samaritain va vivre des moments douloureux, difficiles, parce que les Juifs de l'autre côté, c'est-à-dire du royaume du Sud qui est Juda, vont considérer ce peuple métissé comme illégitime. Pour eux, les vrais Juifs, c'est eux. Ils vont mépriser ces Samaritains-là. C'est pour cela qu'il nous est dit que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Du temps de Jésus, à cause de ce mépris, parce que les Samaritains étaient rejetés des autres, ils vont avoir leur propre temple au lieu de s'unir avec les autres Juifs dans le temple à Jérusalem pour adorer Dieu. Eux, ils vont avoir leur propre temple sur le mont Garizim. Donc, comprenons la situation de cette femme. Comprenons son point de vue en ce qui concerne Jésus. Elle voit venir vers elle un juif, quelqu'un qui le méprise, non pas que Jésus le méprise, mais dans sa pensée, le juif c'est celui qui le méprise. Le juif c'est celui qui ne veut pas les Samaritains. Elle voit venir vers lui un juif qui lui demande de l'eau à boire. Quand on relit le contexte, on se rend compte que cette femme, elle se présente à une heure précise, elle va au puits à une heure distincte des autres heures, justement parce qu'elle ne voulait pas avoir une rencontre avec ceux et celles qui allaient la mépriser. Parce que quand on va plus loin, on se rend compte que non seulement elle était samaritaine, méprisée des Israélites, des Juifs, mais c'était une femme adultère. Elle était adultère. Donc, elle se présente au puits à une heure où les hommes, en la voyant, ne vont pas passer le temps à dialoguer de sa situation. Et là, pour éviter de rencontrer d'autres personnes. Vous savez, dans la pensée des Juifs, tout Juif qui se respectait aurait évité toute discussion avec elle. Parce qu'elle est samaritaine et parce qu'elle est adultère. Je ne sais pas si on peut se mettre un peu dans la situation de cette femme. Mettons-nous un instant dans la situation de cette femme. Vous êtes dans un entourage où personne ne vous veut. Lorsque quelqu'un vous voit, oh là là, on détourne le regard. Personne n'ose vous adresser la parole. Justement parce que vous êtes différent d'eux. Ça aurait été le cas. Hein. Imaginons aujourd'hui. Aujourd'hui, même au milieu de nous ce matin, nous sommes différents. Nous venons d'horizons différents. Et ce, à cause de la grâce de Dieu. À cause de l'amour de Jésus manifesté à la croix. Parce que devant Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, il n'y a ni juif ni grec. Mais du temps de Jésus, il y avait toujours cette distinction-là. Tout juif qui se respectait aurait évité toute discussion avec cette femme, mais Jésus l'a fait. Il l'a fait. D'autant plus que lorsque ses disciples sont revenus, ils vont s'étonner de ce que Jésus s'entretenait avec une femme, avec une Samaritaine. Voyez, même dans la pensée des disciples, c'était inconcevable. C'était inconcevable que Jésus puisse prendre ce temps-là avec cette femme. Ce matin, j'aimerais que quelqu'un sache ceci. Quelle que soit votre condition, quelle que soit votre situation, Jésus veut s'arrêter. Il bouscule, lui, son plan pour s'occuper de nous. Il était fatigué. Il avait soif. Il aurait pu ne même pas faire cas de cette femme. Mais il savait la situation dans laquelle elle se trouvait. Elle avait besoin de la grâce de Dieu. Vous savez, l'homme, Dieu ne fait exception de personne. L'homme regarde à ce qui frappe aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Il regarde au cœur. C'est le cœur qui compte aux yeux de Dieu. Ce n'est pas notre apparence, ce n'est pas notre physique, mais c'est le cœur de l'homme. Il est dit dans la parole, Dieu dira au peuple, donne-moi ton cœur, donne-moi ton cœur. Parce que le cœur est le centre voilà, de tout, de nos émotions, tout vient du cœur. C'est pour cela que la parole de Dieu dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout vient du cœur. S'il y a de bonnes choses dans nos cœurs, se dégagera de bonnes choses, mais sortira de bonnes choses. Mais s'il y a de mauvaises choses dans notre cœur, sortira de notre bouche quelque chose de mauvais. Il ne s'arrête pas, lui, à notre position sociale. Heureusement. Il ne s'arrête pas à nos fautes. Il est mort à la croix. Lorsque Jean-Baptiste voyait Jésus venir vers lui, il va dire, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. C'est lui que Dieu a donné. Souvenons-nous de ce que Jean nous dit au chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il y a déjà dans ce verset une preuve que Jésus est le don parfait que Dieu a donné aux hommes. Quel autre don pouvons-nous recevoir de Dieu si de plus grand que celui-là? Tous les autres dons découlent de lui. Si Jésus n'avait pas livré à la vie à la croix, rien de bon ne pouvait descendre de Dieu pour venir jusqu'à nous, parce que le péché nous empêchait de vivre auprès de Dieu et de recevoir quelque chose de lui. C'est par lui que tout nous vient. C'est parce qu'il a payé le prix que Dieu peut pourvoir à nos besoins, que Dieu peut s'occuper de nous, parce qu'il y avait ce fossé entre nous et lui. Vous savez, pour amener cette femme à la réalité de la vie, Jésus se sert de sa soif. Il avait soif, Jésus. Il était Dieu, mais il était homme. La soif de Jésus nous parle de son humanité. Celui qui était Dieu a revêtu notre humanité afin de pouvoir nous présenter, nous faire connaître Dieu le Père. Dieu sait pourquoi il a permis que son fils Jésus vienne sous la forme d'un homme. Parce que si Dieu s'était révélé aux hommes en tant que Dieu esprit, vous savez, souvenons-nous quand les disciples vont voir Jésus marcher, ils vont croire que c'était quoi? Parce que nous, humainement, on aurait du mal. On aurait du mal. Mais Dieu a accepté de s'incarner en son Fils. Et c'est quelque chose de bien parce que Jésus se sert de sa soif, ce qui nous parle de son humanité, pour se faire connaître à cette femme. Il va y avoir cette discussion et on peut retrouver un peu l'humour de cette femme. Jésus lui demande à boire. Il lui demande à boire, mais qu'est-ce qu'elle va dire? Comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? En un mot, ce qu'elle voulait dire à Jésus, hey, écoute, n'es-tu pas de ceux qui nous méprisent, qui ne veulent pas de nous? N'es-tu pas de ceux qui croient que nous n'avons pas notre place ici? Maintenant que tu as besoin de quelque chose, tu viens vers moi. Vous savez, parfois on fait ça. On ne fait pas cas de quelqu'un, mais quand on a besoin de quelque chose, on va voir la personne. Et souvent la réaction c'est comme cela. Maintenant que tu as besoin de moi, de quelque chose, tu viens vers moi. C'était peut-être le raisonnement de cette femme. Mais elle ne s'imaginait pas. D'ailleurs, Jésus lui dira, si tu connaissais, il y a une chose que les hommes doivent réaliser. Dieu s'est fait connaître aux hommes et il advient aux hommes de chercher à le connaître. Jésus dira lui-même dans Jean chapitre 17, verset 3, « La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé. » Jésus. Il y a là ce besoin-là, que qui que nous soyons, nous cherchions quotidiennement à connaître Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Vous savez, le mot en grec Eido veut dire voir, comprendre, découvrir. Découvrir. Mais dites-moi, comment est-ce que cette femme allait comprendre, découvrir Jésus tel qu'il est s'il ne s'était pas révélé? C'est comme vous et moi. Pour ma part, je n'aurais pas pu connaître Dieu si Dieu ne s'était pas révélé à moi. C'est l'Esprit de Dieu qui nous a fait connaître le Père. Si l'Esprit ne nous révèle pas Dieu, voilà, aucun de nous, ni par nos mérites, ni par nos efforts, ni par nos forces, nous ne serons capables de connaître Dieu. On peut le connaître intellectuellement. D'ailleurs, c'est ce que font beaucoup de personnes qui connaissent la parole de Dieu du bout des doigts. Même dans nos églises. Il suffit que vous dites un verset et il vous donne la référence. Ah, j'envie ces personnes. J'envie ces personnes-là. Elles connaissent la parole de Dieu du bout des doigts. Mais quand il s'agit de mettre en pratique ce que Dieu nous demande, ah là, là on est confronté à un problème là. Parce que connaître Dieu ne se limite pas simplement à avoir une connaissance intellectuelle. Mais c'est plus cela, nous devons laisser cette connaissance intellectuelle s'ancrer dans notre propre cœur et nous amener à nous humilier devant lui et nous ouvrir nos cœurs. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ouvrons les portes au roi, au Dieu de gloire. Laissons entrer quelque chose. Si Jésus n'est pas au fond de notre cœur, cette connaissance intellectuelle, elle ne sert à rien. Si tu connaissais. Mais là n'est pas le propos de notre méditation ce matin. Il dira Jésus, si tu connaissais le don de Dieu. C'est sur cette phrase-là que je vais m'arrêter un instant avec vous. Connaître le don de Dieu. Revenons à ce que nous sommes dit dans Jean au chapitre 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Il a tant aimé et il a donné. Le don parfait de Dieu va de pair avec son amour. C'est parce qu'il a aimé, c'est parce qu'il a tant aimé qu'il a donné. De vous à moi, quand on aime quelqu'un, on ne va pas lui donner des miettes. On ne va pas lui dire, alors que la personne nous voit par exemple manger, on lui dit, occupe-toi de ce qui tombera à terre. Non, quand on aime, on donne quelque chose de bon. Quelque chose de bien. Ce qui est vrai dans nos relations humaines est aussi vrai dans notre relation avec Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné Jésus afin que quiconque croit ne périsse pas. Ah là, nous voyons le fil conducteur. Il est le don parfait. C'est par lui que Dieu a sauvé l'humanité. C'est par lui que les hommes échappent à la colère de Dieu. C'est par lui que les hommes échappent à la condamnation. C'est par lui que Dieu ne nous a pas donné ce que nous méritions. C'est par lui que Dieu nous a fait grâce. Voyez-vous, même lorsque Jésus était avec cette femme, alors qu'elle méritait, aux yeux des Juifs, le mépris, le rejet, ce n'est pas ce que Jésus lui a renvoyé. Jésus lui a donné quelque chose qu'elle ne méritait pas. Et de vous à moi, nous ne méritions pas la grâce de Dieu, mais Dieu nous a fait grâce. C'est ma fille, ne faites pas attention à elle. Regardez-la. Dieu nous a donné quelque chose de meilleur. Si tu connaissais le don, aujourd'hui, il y a... Je vais faire juste une parenthèse et s'adresser. Même à ceux, aux chrétiens. Vous savez, on peut malheureusement passer des années et des années assis sur une chaise dans un lieu de culte comme celui-là. On peut passer des années à entendre le message, la parole de Dieu. On peut passer des années à chanter sans pour autant connaître Dieu tel qu'il désire que nous le connaissions. Malheureusement, je ne suis pas là pour juger qui que ce soit parce que je me mets aussi comme vous. Souvenons-nous de ce que Jésus va dire. Certains se sont approchés et ils pensaient qu'au travers de ce qu'ils ont fait, ils ont fait des miracles, ils ont fait des guérisons, des délivrances. Mais Jésus dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Même moi, si je peux même être là en train de prêcher la parole de Dieu et ne pas connaître Dieu réellement. C'est pour cela qu'on est dans le même bateau, frères et sœurs. Nous sommes dans le même bateau et nous avons besoin de faire attention. Nous avons besoin de découvrir chaque jour dans une intimité profonde la personne du Seigneur. Ce n'est pas le connaître un jour et dire « ça me suffit ». Non. Dieu, chaque jour, veut se révéler tel qu'il est. Il y a chaque jour une facette de la personne de Dieu, du Seigneur Jésus, que je dois connaître dans ma marche avec le Seigneur. Je bénis Dieu pour le jour où il s'est révélé à moi, à vous, à nous. Mais je bénis Dieu de ce que chaque jour, il ne cesse de se présenter à nous afin que nous le connaissions tel qu'il est réellement. C'est ça qui fait la différence dans notre marche avec le Seigneur. Et c'est ça qui va nous permettre de grandir avec lui. Parce que si je m'arrête uniquement à cette connaissance du Seigneur depuis le jour où je l'ai rencontré, je passe à côté. Je passe à côté de beaucoup de choses. Mais chaque jour, j'ai besoin de cette connaissance. Il est la source qui désaltère lorsqu'il s'adresse à cette femme pour lui demander à boire. Il dira, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. C'est la source qui désaltère. La femme, elle s'arrêtait uniquement à ce qu'elle voyait. Elle voyait un juif. Elle voyait qu'un juif devant elle. C'est pour cela que beaucoup passent à côté lorsqu'ils voient uniquement en Jésus. Voilà, certains disent, voilà, c'est le fils du charpentier. C'est le prophète. Oui, il était le fils du charpentier. Il était un prophète. Mais il était plus que ça. Il est le Fils de Dieu. Et ce titre Fils de Dieu, c'est quelque chose de vital. Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il invite cette femme à boire au torrent d'amour pour se rafraîchir. Vous savez, quand on... quand on a connu Dieu, Jésus, quand on apprend à le connaître tel qu'il est réellement, on ne peut pas se satisfaire du peu qu'on a. Mais chaque jour, on aspire à le découvrir de plus en plus. On cherche à être à ses côtés dans une relation profonde, dans une relation d'amour, d'intimité. C'est en cela que l'on peut le connaître. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y avait en cette femme une double condamnation, samaritaine et adultère. Mais le regard d'amour de Jésus, le regard de compassion, allait lui redonner un sens à sa vie. Ce matin, plaise au Seigneur que quelqu'un considère, non pas un regard de jugement, non pas un regard de condamnation, mais un regard empreint d'amour de Dieu, un regard compatissant. C'est ça qui change tout. Lorsque cette femme va croiser le regard de Jésus au départ, elle ne savait pas qui il était, mais plus la discussion s'enclenchait, plus elle va découvrir petit à petit qui il est, et au point qu'elle va, elle va courir, elle va aller dans la ville, elle va oser même, de par sa condition, elle va oser aller dire aux hommes, « Venez voir quelqu'un qui m'a dit tout ce que j'ai fait, n'est-ce pas le Christ » dira-t-elle. Il ne peut pas y avoir de rencontre avec Jésus qui va nous laisser indifférents. Non, chaque rencontre avec Dieu doit produire en nous quelque chose de différent. Lorsqu'il y a une rencontre avec le Christ, les paroles qui sortent de sa bouche, qui sont esprit et vie, ne peuvent qu'apporter la lumière sur notre propre état, sur notre façon de vivre. Et lorsqu'il y a une rencontre, l'Esprit de Dieu nous éclaire sur la personne même du Seigneur. Dans Jean au chapitre 7, verset 38, Jésus dira ceci, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. » Des fleuves d'eau vive couleront. Avant que ça coule, avant que quelque chose coule de moi, il faut que la chose soit en moi. Vous coulez de moi. Si quelqu'un croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Lorsqu'elle va s'empresser d'aller voir à la ville, il est dit ceci, verset 39, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de la déclaration formelle de la femme. Elle ne pouvait pas garder ça pour elle-même. Comme le thème de cette semaine de l'Évangile, voilà, nous l'avons trouvé, viens et vois. Elle a fait une rencontre et elle ne pouvait s'empêcher d'aller annoncer la bonne nouvelle. Même si Jésus a pointé du doigt tout ce qu'elle était, tout ce qu'elle a fait, il l'a fait par amour. Et elle n'a pas trouvé en Jésus quelqu'un qui l'a jugé, quelqu'un qui l'a rejeté. Mais elle a vu quelqu'un qui, en dépit de ce qu'elle avait fait, elle voyait en Jésus quelqu'un plein d'amour. Voyez, c'est ce Jésus-là que les hommes ont besoin de connaître. C'est ce Dieu-là que les hommes ont besoin de connaître. Parce que beaucoup voient en Dieu un père fouettard. Mais non, Dieu est un Dieu d'amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils Jésus. savez, je reviens à ce que Jésus dira dans Jean chapitre 7. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein. Il est dit que plusieurs sortirent de la ville et crurent en Jésus à cause de cette parole de la femme. Parce qu'elle a cru, elle est allée annoncer et plusieurs vont croire. Vous savez, ne dites pas que vous êtes inutile, parce qu'on l'entend plusieurs fois. Des personnes qui se sous-estiment. Ne dites pas que vous n'êtes rien. Ne dites pas, oh, qu'est-ce que Dieu peut faire avec moi? L'œuvre de transformation et de restauration que le Seigneur opère en nous, en vous, sera d'une bénédiction pour ceux et celles qui sont autour de nous, si nous permettons à Dieu de faire ce qu'il a à faire en nous. Le changement opéré dans la vie de cette femme, après sa rencontre avec Jésus, a été visible. C'est pour cela que lorsqu'elle est allée annoncer dans la ville, beaucoup ont cru. Parce que s'il n'y avait pas eu cette transformation en elle, s'il n'y avait pas eu quelque chose en elle, on verrait d'elle simplement que cette femme adultère. Mais les hommes sont allés au-delà de ce qu'elle était. Ils ont vu ce qu'elle est au travers de ce que Jésus va faire. Parce que les paroles de Jésus ont eu un effet, un écho dans son cœur. C'était la même personne physiquement, mais quelque chose avait changé à l'intérieur. Et c'est ce qui compte aux yeux de Dieu. Et c'est ce que beaucoup doivent réaliser encore ce matin, parce que le changement opéré dans la vie de cette femme après sa rencontre avec Jésus a été visible et plusieurs ont accepté son invitation à rencontrer Jésus. Pourquoi je vais me taire au regard de ce que Dieu a fait? Il faut que je m'empresse à dire à ceux qui sont autour de moi ce que Dieu a fait, ce que Dieu a opéré, le changement, la transformation. D'où cette question que j'aimerais que chacun se pose. Quel changement les autres voient en moi qui puisse les attirer au Seigneur? Quel changement les gens voient en moi? Ceux qui sont autour de nous, quel changement voient-ils en nous? Mes voisins, quand ils me voient, quel changement, quelle transformation de vie voient-ils en moi? Quand mes voisins me voient, est-ce qu'ils vont se détourner et ne pas vouloir entamer une discussion avec moi au regard de ma personnalité? Au regard de ce que j'ai fait, d'où l'important d'être ces témoins. Parce que le premier témoignage, ce n'est pas ce qu'on va dire, hein, c'est ce qu'on est. Il est important quand même et plus que ça. Parce que eux, lorsqu'ils vont venir voir Jésus, ils ne se sont pas arrêtés uniquement à ce que la femme leur a dit. Au verset 42, il est dit ceci. Au verset 41, beaucoup plus grand nombre crurent à cause de cette parole. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. » Ce n'est plus simplement parce que tu nous as dit, mais parce que nous avons entendu. Nous avons vu par nos propres yeux qui il est. C'est important quand le Seigneur nous fait grâce de conduire quelqu'un à lui. Que ces personnes-là ne s'arrêtent pas uniquement aux paroles qui sortent de nous, mais que ces paroles les poussent, les entraînent jusqu'au devant de notre Seigneur. Et là, ils découvriront le Seigneur tel qu'il est. Là, ils comprendront qui est Jésus en réalité. Là, ils vont vivre quelque chose de fort. Pas uniquement par nos paroles. Oui, nos paroles sont importantes. Mais ce qu'il y a de plus important, c'est ce qui va couler, c'est ce qui découle du Seigneur lui-même pour atteindre la personne. C'est ça l'essentiel. Alors, Jésus, ce don parfait. Il est le sauveur du monde. Dans Actes au chapitre 4, verset 12, les apôtres vont faire cette déclaration. Ah, il y a cette parole merveilleuse, alors qu'ils étaient même dans une situation délicate. Ils diront ceci, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a de salut en aucun autre. Le salut nous vient de Dieu, du Seigneur Jésus. Dieu nous a offert le don parfait par grâce. Lorsque je termine avec ceci, Paul le présente aux Romains, le plus grand don de Dieu pour les hommes. Au chapitre 5, les versets 15 à 17, après avoir montré que c'est par un homme que le péché est entré, et qu'à travers ce péché, c'est la mort qui attendait les hommes. L'apôtre Paul dira ceci. Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense. Car si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, écoutez bien ce que Paul va dire. Si par l'offense d'un seul, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu complication, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. L'apôtre Paul nous présente là les conséquences de ce don parfait. Alors que les hommes devaient recevoir la condamnation de Dieu, le don parfait de Jésus à la croix. Lorsque son sang a coulé, lorsqu'il a été percé, lorsque ses mains vont recevoir ses clous, lorsqu'il va y avoir sur sa tête cette couronne d'épines, lorsque même en étant sur la terre, ils vont lui cracher dessus. À côté de lui, il y avait deux brigands qui étaient en train de l'insulter, mais un va se ressaisir. Il n'a pas subi cela parce qu'il méritait cette condamnation. Il l'a fait pour vous et pour moi. Il l'a fait pour le monde entier. Il l'a fait afin que les hommes puissent être sauvés de la condamnation. Paul continuera et dira ceci au chapitre 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Ce matin, plusieurs ont fait la rencontre avec ce don parfait, Jésus. Pendant des années, depuis des années, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais. Mais souvenons-nous de ce que Jésus va dire à cette femme si tu connaissais le don de Dieu. Si tu connaissais le don de Dieu. Puisse le Seigneur nous permettre chaque jour de le connaître, d'entrer dans cette intimité, dans cette relation, à travers la méditation de la parole et dans la prière. Quand je suis seul à seul avec le Seigneur dans mon temps personnel, c'est là qu'il se révèle à moi. C'est de cette connaissance-là dont j'ai besoin. Parce que plus je le connais, plus je me rends compte de ce que je suis et de ce que le Seigneur attend de moi. Oui. Alors ce matin, peut-être que quelqu'un a besoin de connaître ce don parfait. Peut-être que quelqu'un a besoin de le rencontrer. Peut-être que quelqu'un se trouve dans une situation difficile où il n'y a pas cet amour-là. Il y a peut-être le rejet, le mépris de la part des hommes qui sont autour. Mais le Seigneur vous invite à croiser le regard d'amour. Nous allons simplement fermer nos yeux. Nous terminons ces moments. Mais nous voulons donner l'occasion à quelqu'un. Tout comme cette femme qui a essayé de discuter avec Jésus. Peut-être que vous essayez de discuter avec lui. Mais ce que le Seigneur voudrait que vous compreniez, que vous sachiez, c'est qu'il désire se faire connaître tel qu'il est réellement à votre cœur. Le connaissez-vous tel qu'il est? Savez-vous qu'il est ce don parfait, descendu du ciel? Tout don parfait, toute grâce excellente nous vient du Père d'en haut. Et ce don, c'est Jésus. Alors, y a-t-il quelqu'un au milieu de nous ce matin qui a besoin de rencontrer le Seigneur, de s'abandonner complètement à lui, de ne plus faire cas au jugement des hommes, de ne plus s'arrêter au mépris des uns les autres, mais de lever les yeux et de considérer l'amour et la compassion du Seigneur Jésus. Y a-t-il quelqu'un au milieu de nous? Et peut-être que quelqu'un qui connaît le Seigneur voudrait également apprendre à mieux le connaître pour mieux le servir. Parce que là aussi, il en est, c'est ce qui est important. Ce qui va nous donner de l'élan dans notre service pour le Seigneur, c'est quand nous allons le connaître réellement tel qu'il est. Cela va nous motiver, nous donner de l'élan à le servir. Parce que plus nous nous ouvrons à lui, plus il nous fait le connaître, plus nous avons ce désir-là de le servir et de demeurer chaque jour à ses côtés. Nous allons simplement prier. À toi la gloire, Seigneur. Comme nous l'avons chanté, Seigneur, avec toi les vies brisées sont restaurées. Avec toi, Seigneur, il y a la joie de vivre. Tu as redonné un sens à la vie à cette femme. Tu lui as redonné la joie de vivre. Seigneur, et elle n'a pas pu garder cela en elle, mais elle l'a communiqué. Puisses-tu ce matin redonner à quelqu'un la joie de vivre? Puisses-tu ce matin, Seigneur, redonner un sens à la vie à quelqu'un? Seigneur, mon Dieu, mon roi, puisses-tu, par ton esprit, transformer, Seigneur, Au point que lorsque quelqu'un sortira de ce lieu, qu'elle s'empresse, Seigneur, à raconter à ses voisins, à sa famille, Seigneur, à son entourage, que tu es vraiment le Christ, le Fils du Dieu vivant. Oui, Pierre a certainement connu quand il a crié, à quel autre irions-nous si ce n'est qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous bénissons ton nom, Seigneur, et nous te rendons grâce. Parce que tu n'es pas ce Dieu lointain comme pensent plusieurs, mais tu es tout près et tu désires te faire connaître. Seigneur, reçois notre louange et merci pour ces moments. Oui, Seigneur, merci pour ta présence au milieu de nous. Merci parce que tu nous restaures, tu nous renouvelles, Seigneur. Tu relèves, tu guéris. Seigneur, tout nous vient de toi. Et nous bénissons ton Saint-Nom. À toi seul la gloire, l'honneur et la louange, dans le nom de Jésus. Amen.